Merci Anne et bon week-end.
Vous savez, ils sont tous paumés dans l'atmosphère de la Russie, en train de sombrer intégralement, le pays qui se délite, tout le monde est paumé. Et les chanteurs parlent de ça, quoi. Il n'y a pas d'illusion, il n'y a rien qui va nous sauver, on va dans le mur.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À Maurice Ardot.
Un événement du passé mis en récit, mêlé à des archives et des musiques choisies. Chaque samedi de 19h à 20h et à toute heure sur franceculture.fr, voici Jukebox. Bonsoir à tous. Ce soir, Jukebox vous ramènera dans les toutes dernières heures de l'URSS, tandis que l'édifice communiste commence à se fissurer et que la perestroïka lancée par Gorbatchev au printemps 85 ouvre les vannes, entraînant presque incidemment l'émancipation du milieu rock. Le rock jusque-là formaté, condamné à la clandestinité et qui se voit soudain autorisé. Le rock dont la révolution avait lentement infusé depuis des décennies, se développant dans les appartements communautaires de Leningrad. Alors que vient de sortir en salle le très élégant film « Leto », signé du cinéaste Kirill Serebrennikov, évoquant cette scène rock underground et le groupe Kino, nous reviendrons, nous, sur les étapes qui aboutiront un jour de 1990 à la prise d'assaut par des rockers chevelus du stade Lénine de Moscou. Ce soir, Leningrad 1980, le rock au pays des soviets. Sans doute s'était-il couché trop tard. Peut-être avait-il veillé en contemplant la mer Baltique au loin et cette côte sauvage si sereine dans la douceur de l'été. C'était devenu une habitude depuis quelques années. Chaque été, il louait une petite maison dans le village de Plinchiems, au bord du golfe de Riga, en Lettonie. Il aimait y passer du temps avec sa femme et leur fils Sacha, qui, cet été 90, venait d'avoir 5 ans. Ce jour-là, Victor s'était levé tôt pour aller pêcher. Sacha devait l'accompagner, mais au dernier moment, l'enfant avait préféré la chaleur de son lit. Alors Victor avait grimpé dans sa voiture, sa Moskvitch 2141, l'automobile des jeunesses léninistes. Tu parles. J'ignore où il était allé pêcher et si la pêche avait été bonne. Ce qu'on suppose, c'est qu'au retour, au kilomètre 35 de la route entre Sloka et Talsi, il s'était assoupi au volant, finissant sa course dans un bus arrivant en sens inverse. Sa voiture avait été complètement broyée. Victor Tsoï et sa belle gueule d'ange asiatique avaient 28 ans. Certains dirent ensuite qu'il avait changé, qu'il travaillait trop depuis que le succès lui était tombé dessus. En tout cas, il roulait beaucoup trop vite ce jour-là, 130 km/h, sur cette route bordée d'arbres.
Смотрю в чужое небо из чужого окна и не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда и сюда, обернулся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. Хотел быть виноватым без вина. И никто не хотел руками жар загребать, а без музыки на миру смерть не красна, а без музыки не хочется пропадать. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что, взлетая, оставляет земле лишь тень.
De musique, je risquerais de tomber, mais j'ai un paquet de clopes dans ma poche, alors ce pourrait être pire. Et puis j'ai un billet pour embarquer dans un avion aux ailes d'argent, un avion qui s'envolerait loin, ne laissant plus qu'une ombre sur la terre. Pachka Cigarettes, le paquet de cigarettes, par le groupe Kino, dont le chanteur Victor Tsoï s'était donc tué bêtement l'été 90, un an avant l'effondrement d'un système qu'il n'avait eu de cesse de dénoncer. Sa mort avait suscité sur place une immense émotion, Tsoï étant devenu, comme tant d'autres stars du rock russe de cette fin des années 80, un quasi-dieu. Archive France Culture, Nuit Magnétique, février 1989.
Nous sommes dans la maison, dans l'immeuble où habite le rockstar de Leningrad, Boris Grebenchikov. Nous montons l'escalier car elle habite au sixième. Et les murs du bâtiment sont couverts de graffitis. De toutes sortes, Boris, nous t'aimons. Boris, tu es le meilleur chanteur du pays. Tu es un saint, tu es un dieu, nous t'adorons, nous t'attendons chez nous. Il y a même des vers, des poésies consacrées à Boris. L'escalier est long, ça prend du temps pour monter. Il n'y a pas d'ascenseur, mais les graffitis continuent toujours. Il y a même des portraits. Et voilà la porte.
Pendant longtemps, les têtes pensantes du soviétisme n'avaient pas su trop comment s'y prendre avec la musique. Lénine aimait, dit-on, l'appassionata de Beethoven, mais en dehors de ça, il disait n'y rien connaître. Staline, lui, s'en méfiait comme d'une chose subversive. Du saxophone au couteau, il n'y a qu'un pas, avait-il dit un jour, visant explicitement le jazz, expression selon lui bien trop décadente pour permettre l'avènement de l'homme nouveau. Et le jazz, de fait, était resté prohibé jusqu'à la mort de Joseph. En 1956, les concerts furent finalement autorisés, mais on s'inquiétait de l'étrange et inquiétante communion qui pouvait naître entre la scène et l'auditoire, cette joie, cette transe qui amenait parfois certains, se trémoussant, à se perdre dans des déhanchements qualifiés de pornographiques par le pouvoir. Et puis ça s'était détendu, du moins pour le jazz. Car le rock, cette musique par laquelle les rejetons du monde occidental se rebellaient depuis peu contre leurs parents, le rock, on continue de s'en méfier. Les disques occidentaux sont interdits et les ondes des radios qu'on pourrait capter au-delà du rideau de fer, la BBC ou bien Voice of America, sont consciencieusement brouillées. La situation force la jeunesse à des trésors d'inventivité, comme ces films radiographiques, ces radios médicales, que des étudiants en médecine détournent de leur usage premier pour y enregistrer les tubes de Bill Haley, d'Elvis Presley, de Paul Anka ou bien des Beatles, ces tubes que diffusent les radios de l'Ouest. Ainsi, pendant des années, s'échangeront sous le manteau contre un rouble ou un rouble et demi ces étranges matériaux musicaux, si fragiles qu'au bout d'une trentaine de passages sous l'aiguille d'un phonographe, leurs possibilités musicales s'épuisent. Au milieu des années 1960, à la fin de la période dite de dégel, les choses restent toutefois encore relativement libres et la musique rock parvient à se faire un chemin dans les grandes villes, notamment à Moscou, où des concerts se tiennent parfois dans les cafés ou les salles des fêtes des universités. À l'époque, les guitares électriques sont quasi introuvables. Soit on va les chercher en train jusqu'en Tchécoslovaquie, soit on se les fabrique à partir de guitares acoustiques sur lesquelles on met des micros. Et puis, en 1966, s'était tenu le premier concert officiel de rock dans une salle du ministère des Affaires étrangères de Moscou. On ne parle pas de rock d'ailleurs, mais de beat, vu qu'en russe, le mot rock est déjà pris et signifie le destin. On dit donc beat, et pour les groupes qu'on autorise à en produire, on parle de VIA, acronyme de l'expression ensemble vocal et instrumental. On autorise donc ces VIA à jouer du rock, pardon, du beat, une musique sage, propre et raide, faite de chansons folkloriques ou de reprises en russe de tubes anglo-saxons. On peut ainsi devenir professionnel et bénéficier de tournées subventionnées à condition de se couper les cheveux, de s'habiller correctement et de diffuser un message optimiste et constructif énoncé en russe. Les autres peuvent aussi faire de la musique, mais ils n'auront pas le droit de faire payer l'entrée de leur concert. Autrement dit, ils ne pourront pas en vivre. Le tout premier de ces VIA s'appelle « Les Joyeux Garçons » qui sortent un album lequel se vend à 14 millions d'exemplaires et où l'on trouve notamment ce titre aux paroles hautement subversives puisqu'elles énoncent que les gens se rencontrent, tombent amoureux et se marient et moi, je n'ai pas de chance, je souffre, mais hier soir j'ai fait la connaissance d'une fille et bla et bla et bla. Illustration sur 2 minutes 20 histoire de comprendre d'où l'on part.
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда. Вот наконец вчера вечером встретил я девушку. Там, где тревожно гудят, стучат поезда. Свой вагон вошла она. Улыбнулась из окна, поезд тронул, а я вслед, лишь рукой помахал ей в ответ. Волосы светлые, вкусы сплетенные, а в глазах небо бездонного синь, в улыбке весна. Стройная, милая, очень красивая девушка. Может быть, где-то рядом она. Свой вагон вошла она, улыбнулась из окна. Поезд тронула я вслед, лишь рукой помахал ей в ответ. Вошла она,
лишь рукой помахал не в ответ.
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда, что просто беда, что просто беда.
Les gens se rencontrent par le groupe Les Joyeux Garçons. Ces VIA, ces groupes officiels dont plus tard certains arboreront eux aussi les cheveux longs et le look hippie, ces groupes sont produits par le label d'État Melodia. Ils sont soutenus par la toute puissante et conservatrice Union des compositeurs et ils sont diffusés à volo par Radio Moscou. Et puis, à l'inverse, en marge de ces circuits officiels, se multiplient des groupes d'amateurs et c'est sur eux que nous allons nous pencher ce soir. Au début, ces groupes portent leur provocation dans leur nom, plutôt fleuri, jugé. Les réfugiés de l'enfer, les partousards de minuit ou bien les jeunes Comanches. Eux jouent un rock plus agressif, plus proche des Stones ou de Tom Jones. Et surtout, ils refusent de chanter en russe. Ils répètent clandestinement, trompent la surveillance et la censure des flics en jouant dans le garage numéro 12 des taxis de Moscou ou bien dans la salle du buffet du 16e étage de l'université. C'est avec eux que naissent les premiers studios d'enregistrement pirates. Ce qui a son importance, car ces années-là, les autorités n'envoient plus que rarement au trou les musiciens pour déviance idéologique. Ils se débrouillent pour trouver d'autres raisons, plus insidieuses, comme le fait d'avoir cherché à se procurer des choses au marché noir, d'avoir acheté des instruments en dollars ou bien d'avoir édité un enregistrement pirate. Enregistré clandestinement et diffusé sur cassette au milieu des années 70, cette chanson du millionnaire par le groupe Machina Vremeni. Ces années 70, chanter en russe était donc considéré comme terriblement conformiste. Et qu'on soit un groupe officiel ou pas, on préférait l'anglais, reprendre les Beatles, Led Zeppelin ou Pink Floyd, que l'on copie. La plupart des musiciens estiment que la langue russe, avec ses phrases trop longues, ne convient pas au rock. Face à cela, dès la fin des années 70, va pourtant se constituer à Leningrad ce qu'on va appeler une nouvelle vague, caractérisée par un mélange de musique New Wave british et d'une importance particulière accordée aux textes, lesquels devront être chantés en russe, perpétuant par là même la tradition des chanteurs à texte des décennies 50 et 60, comme Vladimir Vysotsky. Ces milieux contestataires, cette bohème artistique, se retrouve notamment au café Saigon, un rad interlope situé sur la perspective Nevski à Leningrad. Là, ils discutent de philosophie, de méditation, rêvent d'un monde meilleur. Parmi eux, le groupe Machina Vremeni, la machine à explorer le temps, formée en 1969 et influencée par la pop des Beatles et qui, eux aussi, se plaçant dans la grande tradition poétique russe, portent une grande attention au texte. En 1981, ils publieront le titre « Povorot », traduisez le tournant, dont les paroles disent « Nous nous étions dit de ne pas sortir du droit chemin, mais tel était notre destin, Si je peux être franc, tout le monde a peur du changement, mais c'est ici tout de même. Le titre fait un carton dans les hit-parades pendant 18 mois, diffusé en boucle sur Radio Moscou, mais il est interdit d'être joué sur scène par les autorités qui ont quand même un doute sur la nature du tournant en question. Machina Vremeni, Povorot, le tournant, 1981. Il faut dire que l'année précédente, le groupe avait remporté le tout premier festival de rock organisé en Union soviétique, organisé à Tbilissi, capitale de la Géorgie, un festival baptisé Les Rythmes du Printemps. Une semaine de concerts autorisée par le premier secrétaire du PC de Géorgie, Chevernadze, afin de lâcher un peu de lest à une jeunesse qui, 2 ans plus tôt, s'était sérieusement échauffée. Lors de ce festival, les représentants des VIA ne remportent rien. Au contraire, ceux qui font parler d'eux sont des groupes alternatifs, comme le groupe Aquarium, qui provoque un scandale en buvant du vin sur scène, en se déhanchant de manière lascive, ou bien lorsque son guitariste, Boris Grebrenchikov, s'était mis à jouer de la guitare à plat ventre. Les membres du jury avaient quitté la salle et Aquarium était entré dans la légende de la contre-culture soviétique. Au autre formation qui avait fait parler d'elle et placé trois de ses chansons dans le palmarès final, le groupe de rock progressif Autograph, fondé à Moscou l'année précédente et qui avait fait sensation avec ce titre qu'on peut traduire par « Attachez vos ceintures ». Le groupe Autograph, Attachez vos ceintures. En février 1981, s'ouvre à Leningrad ce qui va devenir une institution, le Rock Club, imaginé afin de mieux contrôler les activités de l'underground de la ville, comme on le fait d'ailleurs dans le même temps avec les écrivains ou avec les peintres. Au Rock Club, donc, avec l'aval du KGB, peuvent se produire tous les groupes qui s'engagent à arrêter de diffuser clandestinement leur musique et qui s'engagent à soumettre préalablement leur texte à un comité. En échange, ils bénéficient de salles de répétition, d'équipements sonores, d'un créneau de concert et d'une couverture médiatique. Les concerts se déroulent dans une atmosphère étrange. Dans une vaste salle aux murs couverts de dorures, le public est sagement assis sur des sièges en velours. Toute manifestation d'enthousiasme jugée excessive de la part du public est vertement réprimée par les agents du KGB qui circulent dans les travées. Pas de vagues, pas d'hystérie, pas de pornographie, on applaudit à la fin des morceaux et puis c'est tout. Mais enfin, les concerts de rock ne sont plus limités aux seuls groupes officiels, aux seuls VIA. Parmi les groupes qui émergent lors des concerts donnés au Rock Club, Televisor, formé en 84 à Leningrad et qui en 87 sortira un album intitulé « Patrie des illusions ». Mes pensées errent dans le corridor, elles se battent avec des pensées étrangères venues de l'ouest et de l'est, de partout, elles coulent à flot. Ma tête n'est pas une poubelle, laissez-moi tranquille, la patrie est une illusion. France Culture, Jukebox, ce soir, Leningrad et la contestation rock.
Афоризмы, да маразмы. Как заразно я стал уставать от жизни. Спасибо тебе, мой разум. С этими ты или с теми, гласный или согласный, куда ни плюнь систему, и ты уже как-то назван. Моя голова как выстрел бродит по коридору. Свои и чужие мысли спорят, Спорят, спорят из запада, с востока, отовсюду. Текут рекою, но моя голова не помойка. Оставьте меня в покое, отечество иллюзия. Что внутри, что снаружи, чем дальше, тем хуже отечество иллюзий. Только все говорят о разном, нацисты и пацифисты. Черный ты или красный, попробуй остаться чистым. Бейся о водопады, ройся в чужих отходах. Ты давно уже найден, ты давно уже продан отечеству иллюзия. Что внутри, что снаружи, чем дальше, тем хуже отечество иллюзий. Отечество иллюзий. Моя голова как выстрел бродит по коридорам. Свои и чужие мысли спорят. Спорят, спорят из запада, из востока, отовсюду. Текут рекою, но моя голова не помойка. Оставьте меня в покое, отечество иллюзий со мной. Что внутри, что снаружи, чем дальше, тем хуже.
Patrie des Illusions, le groupe Télévisor, 1987. Économiquement, la situation des musiciens de la scène underground de Leningrad est précaire. Ils vivent souvent dans de vieux appartements exigus, des appartements communautaires, et gagnent chichement leur vie comme agents de sécurité, concierges, chauffagistes ou artisans. Même si, à cette époque, la vie quotidienne est difficile partout, à Leningrad comme ailleurs. Archives France Culture, Numénétique, novembre 1987.
Les difficultés d'approvisionnement restent l'un des problèmes fondamentaux des moscovites. Les magasins, surtout ceux d'alimentation, sont toujours aussi sommairement achalandés, surtout en ce qui concerne les légumes et les fruits. Les produits sont rares, souvent de mauvaise qualité, même ceux de consommation courante. Leur distribution irrégulière, anarchique, sauf pour le beurre et les œufs. D'un mois sur l'autre, on ne trouve plus de savon, plus de sucre, plus de fromage, plus de shampoing ou de pâte dentifrice. Il n'y a guère que dans les marchés kolkhoziens que l'on trouve une certaine abondance, mais à quel prix ?
De ce point de vue, rien n'a changé, rien n'a bougé. Les magasins sont comme avant, assez mal fournis, il y a toujours des queues. Après tout, on peut tout trouver, mais en perdant beaucoup, beaucoup de temps.
Mais on sait tout cela. Revenons donc à notre chronologie. Après une période de relative assouplissement envers le rock en 1981, la situation se tend de nouveau. En novembre 82, Youri Andropov, l'ancien directeur du KGB, devient secrétaire général du parti. L'époque voit les tensions Est-Ouest s'exacerber et culmineront l'année suivante avec l'interruption des négociations sur la non-prolifération des armes nucléaires. Alors que l'Ouest fascine de plus en plus de jeunes soviétiques, on revoit surgir la nécessaire lutte contre les influences pestilentielles de l'Occident. En 83, le ministère de la Culture énonce que dorénavant, le répertoire des groupes devra comporter 80% de chansons de compositeurs soviétiques. Par ailleurs, il est désormais interdit aux entreprises et aux Komsomol, les jeunesses communistes, d'organiser des soirées dansantes sans l'aval du département de la culture locale. Les poursuites à l'encontre des organisateurs de concerts clandestins se multiplient, menées par le département de lutte contre le pillage de la propriété socialiste. Face à l'interdiction énoncée, les groupes trouvent une parade, des concerts en appartement, ce qu'on appelle les kvartirniki. Pour ne pas attirer l'attention, ces concerts sont exclusivement acoustiques, guitare sèche, flûte, bongo ou violoncelle. Se créent alors des répertoires parallèles. Exemple avec le groupe Zoopark, un groupe fondé à l'automne 80 à Leningrad autour d'un certain Mike Nomenko, dans ce titre « L'été ». L'été, je suis cuit, dessus, dessous, j'ai tout le temps, mais pas un sou, mais en fait je m'en contrefous. L'été, je me suis acheté un canard, j'ai de la lecture, mais rien à boire, j'ai besoin d'une bière ce soir. L'été, les fringues sont usées, élimées, les bouches crachent de la fumée, les temps m'attendent, je vais me baigner. J'ai entendu, je ne sais où, qu'une comète fonçait droit sur nous et qu'on crèverait tous d'un seul coup.
Лето, я и жарен, как котлета. Время есть, а денег нету. Но мне на это наплевать. Лето, я купил себе газету. Газеты есть, а пива нету. Я иду его искать. Лето. Сегодня сейшн в Ленсовета. Там будет то и будет это. А не сходить ли мне туда? Да-да-да. Лето. Все хулиганы при кассетах. У них, наверное, вендетта. Но, впрочем, это ерунда. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Лето. От комаров спасения нету. А в магазинах нету деты. Почете доноры у нас. Оно ждет меня со света. Скорей карету мне, карету. А впрочем, подойдет и квас. Лето. Штаны истерты, как монета. Во рту дымится сигарета. Иду купаться в водоем. Лето. Недавно я услышал где-то, что скоро прилетит комета. И что тогда мы все умрем. Умрем.
Le groupe Zoopark pour cette version de l'été, Leto. Leto qui donne justement ces jours-ci son nom au film de Kirill Serebrennikov actuellement en salle et qui raconte tout en noir et blanc et en finesse l'émergence ces années 80 à Leningrad d'un poète magnifique, crépusculaire, le jeune homme que nous croisions au tout début de cette histoire de retour d'une partie de pêche, Victor Tsoï, le chanteur du groupe Kino. Un poète, donc, tant à l'époque, le rock underground, condamné à la clandestinité des concerts en appartement, et ne pouvant donc plus jouer sur la puissance des décibels, cette musique se doit de soigner ses textes. Les paroles deviennent primordiales, abordant souvent la part sombre de l'existence.
Quand Gorbatchev succède le 11 mars 85 au dernier des morts vivants du Kremlin, Konstantin Tchernenko, le KGB a fait un diagnostic douloureux, l'Union soviétique n'a plus les moyens de tenir son rang de grande puissance.
Une bascule s'opère avec l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev en mars 1985. Gorbatchev qui lance le mois suivant une vague de réformes et d'ouverture qu'on baptise Perestroïka, la reconstruction en russe.
Yeah.
Des changements exigent nos cœurs, des changements exigent nos yeux. Dans nos rires, dans nos larmes et les pulsations de nos veines, nous attendons des changements. À l'image de cette chanson du groupe Kino publiée en 1986 et qui deviendra la chanson étendard de la perestroïka, des changements, ils s'en produisent en cascade alors. En dehors des mesures de libéralisation économique, dès l'automne, le brouillage de la BBC et de Voice of America est abandonné. Surtout, la musique rock est légalisée en URSS. Tous les groupes underground du pays sont autorisés à se produire sur scène, ainsi qu'à être diffusés à la radio et à la télévision. Télévision où des émissions spécialisées font leur apparition, diffusant des clips. Journaux et magazines voient fleurir des flots d'articles enthousiastes sur le rock russe underground. Le public, lui, peut enfin acheter officiellement des billets de concert pour aller voir ses groupes favoris. Des concerts au cours desquels ils ont désormais le droit de sauter, de chanter et de danser sans entrave, comme lors du premier festival de rock de Moscou, organisé au printemps 86. Les groupes se multiplient. On compte cette année-là 200 groupes professionnels, autrement dit rémunérés par l'État, sans parler des amateurs. L'un des groupes qui rencontre alors le plus grand succès a été fondé en 1982 à Sverdlovsk, la future Yekaterinbourg, par deux étudiants en architecture. Ce groupe, qui sort son premier album l'année suivante, prendra le nom de Nautilus Pompilius, du nom d'une espèce de mollusque. En 86, ils sortent un étrange morceau dont on pourrait traduire le titre par « Un regard détaché de l'écran » et qui prend Alain Delon pour modèle. Alain Delon, en disent les paroles, parle en français. Il ne boit pas l'eau de Cologne. Alain Delon boit un double bourbon. Alain Delon parle en français.
Она читала мир как роман, а он оказался повестью соседи. Подъезду парни с прыщавой совестью. Прогулка в парке без дога может стать тебе слишком дорого. Мать учит наизусть телефон морга. Когда ее нет дома слишком. Ходя не находит дверей и плюет в приготовленный ужин. Она старше, чем мать, он должен стать ее мужем. Первый опыт борьбы против потных рук приходит всегда слишком рано. Любовь — это только лицо на стене. Любовь — это взгляд с экрана. Ален Делон говорит по-французски. Ален Делон говорит по-французски. Пьет одеколон, Ален Делон.
le groupe Nautilus Pompilius, 1986. Et puis logiquement, la Russie se prend aussi la vague punk. À la Maison Blanche, on décide de la façon de tuer les gens, publié après le sommet de Reykjavik qui avait eu lieu en 86, se rencontrer Gorbatchev et son homologue américain. Ce morceau intitulé Reagan Provocator par le groupe des Vibromasseurs, acte de naissance du punk en Russie. Des punks qui n'arborent pas encore, faute de gel et des teintures disponibles au marché noir, les crêtes iroquoises et le look des punks britanniques, mais qui profitent de l'ouverture de la société pour clamer leur rejet de ce monde morne et renvoyer dos à dos, de manière implicite, comme dans cette chanson, l'oppression communiste et celle des Américains.
Огромный мощный полигон. Народы в голоде и в войнах теряют тысячи жизней. А в Вашингтоне в Белом доме решают, как убить детей.
Реген провокатор. Реген провокатор. Реген провокатор.
Archives, les nuits magnétiques, France Culture, 1987.
Vous хотите посмотреть какой-нибудь рок-концерт?
Vous voulez peut-être assister à un concert de rock soviétique? Vous pouvez le faire, c'est tout à fait possible et c'est très intéressant. Comment vous dire, ce ne sont pas des concerts tout à fait officiels. Ou, même si c'est le cas, ils ne passent pas dans les grandes salles, mais il y a des petits clubs pour les jeunes où on a des concerts comme ça. C'est les groupes des jeunes.
Et
personnellement, je n'aime pas les groupes de rock moscovite. Je préfère le rock de Leningrad.
Pourtant, en sortant de l'ombre, le rock russe change de nature. Machina Vremeni, Kino, Aquarium, Nautilus, Pompilius et les autres groupes de l'ancienne underground ont désormais leur ronde serviette sur les plateaux des émissions de télévision nocturnes lancées à cette époque. L'une de ces émissions, le Ring Musical, proposait souvent des confrontations de deux groupes underground à travers des prestations musicales ou des quiz. Bienvenue dans le monde moderne, des questions bêtes, des intervieweurs, des situations embarrassantes devant un public de fonctionnaires communistes, d'étudiants, de femmes au foyer, avec, in fine, le vote des téléspectateurs. Ce changement, cette accession soudaine à la notoriété, certains de ces musiciens le vivent mal. Habitués jusqu'alors à la marginalité et à une vie de bohème, au fond, ils n'ont aucune envie de se retrouver enfermés dans un courant majoritaire ou de rentrer dans un moule qu'ils ont passé leur vie à dénoncer. Ainsi, Mike Nomenko, le leader du groupe Zoopark, n'a jamais su réellement s'adapter à cette nouvelle réalité économique du rock. Se produisant certes en concert, mais ne passant jamais à la télévision et n'apparaissant que rarement dans la presse de l'époque. Sombrant dans l'alcoolisme et la dépression, il avait finalement trouvé la mort en 1991. D'autres groupes s'adaptent mieux. Kino, ainsi, accède à la notoriété dès 1988, se lançant ensuite dans une impressionnante série de concerts, remplissant des salles de plus en plus grandes jusqu'à un concert donné en juin 90 au Stade Lénine de Moscou, devant 70 000 personnes. Mais même Kino finit par être ébranlé par le succès. Et la mort de son chanteur dans cet accident de voiture, le 15 août 1990, crée une onde de choc auprès de ses fans. Pour de nombreux Russes, cette mort tragique serait avant tout due à un surmenage. Poussé par leur producteur, le groupe avait radicalement changé de vie, abandonnant son cercle d'amis et ses habitudes de vie modestes dans le Léningrad soviétique. Rappelons qu'avant de connaître la célébrité, le chanteur Tsoï travaillait la nuit comme chauffagiste dans une centrale à charbon. Toujours est-il qu'après la mort de Tsoï, les membres du groupe Kino enregistreront un album posthume, empruntant pour cela de l'argent à l'association des vétérans d'Afghanistan pour qui Victor était une idole, lui qui avait refusé d'être envoyé combattre là-bas, lui qui l'avait payé de 2 ans d'internement psychiatrique et d'injections chimiques, lui qui, en 1989, avait composé le tube de l'année intitulé Blood Type, le groupe sanguin, celui que les appelés d'Afghanistan s'inscrivaient sur la manche de leur vareuse au cas où ils devraient être transfusés d'urgence. « Je ne veux pas d'une victoire à n'importe quel prix. Je préférerais rester ici avec toi. Mon groupe sanguin est marqué sur ma manche. Souhaite-moi bonne chance au combat. »
D'abord, un télégramme de Moscou qui nous est parvenu il y a exactement 3 quarts d'heure annonce laconique. Le chef de l'État Gorbatchev et le président russe Eltsine décident d'un commun accord que les structures de l'URSS cesseront d'exister avant la fin de l'année. Donc, Ulysse Gosset, c'est l'arrêt de mort de l'Union soviétique.
C'est la fin, effectivement, de l'URSS, telle qu'elle existait depuis 1922. Et cette fois, il s'agirait d'un accord conclu entre Boris Yeltsin et Mikhail Gorbatchev. Les deux hommes se sont vus, en effet, cet après-midi au Kremlin pendant un peu plus de 2 heures. Une discussion qui devait donc sceller la disparition de l'ex-URSS. Les structures du pays cesseraient d'exister avant la fin de l'année, a annoncé mardi le porte-parole de la présidence russe. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une annonce faite du côté russe et du côté du Kremlin, du côté de Gorbatchev. On n'a pas encore confirmé la nouvelle.
Chers compatriotes et concitoyens, en raison de la situation qui prévaut actuellement, je mets fin à mes fonctions de président de l'URSS. Je reste fidèle à mes
droits. Кто-то сорвется с высокого крана. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. Следи за собой, будь осторожен.
C'est sur ce morceau intitulé « Prends soin de toi » par le groupe Kino que se referme ce numéro de Jukebox. Ce soir, Leningrad 1980, le rock au pays des soviets. Réécoutes, téléchargements, liste des morceaux diffusés, références des archives et possibilités d'exporter les playlists, c'est sur franceculture.fr à la page de Jukebox, où vous pouvez également nous faire part de vos commentaires et vos suggestions. L'Étau, le très beau film signé Kirill Serebrennikov, est donc en salle depuis le 5 décembre dernier. Sa bande originale, signée du groupe Zveri et primé lors du dernier festival de Cannes, est elle publiée chez Milan Musique. Enfin, à lire la Bible du sujet, le formidable Back in the USSR, signé Joël Bastener, édité chez Le Mot et le Reste. Jukebox à la préparation, c'était Pascaline Bonnet et Antoine Villoz, avec Annie Lozana à l'INA. À la technique, c'était Valérie Lavalard. Agnès Catou à la réalisation, au micro à Amaury Chardot. Bonne soirée et à samedi 19h pour un prochain Jukebox.